Le journal Pierre Veil, bonjour.
Bonjour à tous. À la SNCF, trafic perturbé au premier jour des vacances scolaires. Les contrôleurs et conducteurs maintiennent leur droit de retrait après un accident de TER. Le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, dénonce une grève qui ne respecte pas la loi. Pour Édouard Philippe, c'est un détournement du droit de retrait à l'impact inacceptable. Dans un instant, le point complet sur les perturbations et nous irons Gare de Lyon à Paris. À Londres, séance exceptionnelle à la Chambre des communes avant un vote historique sur le Brexit. Boris Johnson dit que tout nouveau report serait inutile, coûteux et destructif. Barcelone, dans le chaos après une manifestation monstre hier, de violents affrontements entre militants indépendantistes radicaux et forces de l'ordre. Invité de ce journal pour comprendre cette crise en Catalogne, l'historien et spécialiste de l'Espagne, Benoît Pellistrandi. La Coupe du monde de rugby au Japon, les quarts de finale, l'Angleterre qualifiée pour les demi-finales grâce à son large succès ce matin sur l'Australie 40-16. En demi-finale, les Anglais affronteront le vainqueur du quart de finale Nouvelle-Zélande-Irlande qui se joue en ce moment. Le conseil culturel du samedi avec Ilana Mor-Youssef, un livre de la grande romancière Edna O'Brien. Elle publie Girl, l'histoire d'une adolescente nigériane capturée par Boko Haram.
France Inter.
Comme hier, le trafic SNCF est perturbé. Aujourd'hui, au premier jour des vacances scolaires, direction et syndicats n'ont pas trouvé de compromis pour inciter les conducteurs et contrôleurs à lever leur droit de retrait. Droit de retrait exercé après un accident sur un passage à niveau dans les Ardennes qui a fait plusieurs blessés mercredi, dont un conducteur de train. On va faire le point tout de suite maintenant sur les perturbations à la mi-journée avec Emeline Ferry au PC Mobilité. Emeline, bonjour.
Bonjour.
Les TER sont très touchés par ce mouvement social.
Oui, la situation est comparable à hier. Environ un TER sur deux circule aujourd'hui, mais c'est très contrasté en fonction des régions. Très peu de trains régionaux dans le sud-ouest en Béarn. Aucun TER ne circule en Champagne-Ardenne. Seulement un TER sur cinq en Côte d'Or en Bourgogne. Des retards et des suppressions aussi en Moselle et en Bretagne. Ça va un petit peu mieux en ce milieu de journée en Normandie et dans les Alpes-Maritimes. Ça s'améliore. La circulation des TGV, elle, est légèrement touchée. 9 trains sur 10 sont assurés dans les régions sud-est et Atlantique Ouest. Tout est normal dans le Nord et l'Est. Par contre, il n'y a aucun train Ouigo aujourd'hui sur les rails. Les voyageurs vont être remboursés, promet la SNCF. En Ile-de-France, les RER A, B et D sont extrêmement perturbés, tout comme certaines lignes du réseau transilien.
Merci Emeline. Quelle est la situation ce matin à Paris, à la gare de Lyon? Sur place, on va retrouver Rémi Brancato. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Les voyageurs là-bas sont déboussolés par toutes ces perturbations.
Oui, des voyageurs qui cherchent des solutions comme Grégory et son fils, tout juste rentrés de l'île Maurice ce matin. Leur train Ouigo est supprimé en direction du sud.
C'est un Ouigo, donc le train Ouigo qu'on devait prendre pour rentrer chez nous. Mais on n'a pas de solution d'alternative en fait, parce que comme on est déjà en week-end de vacances scolaires, c'est déjà presque saturé. Mais alors encore plus avec la grève, toutes les alternatives sont déjà saturées.
Comme lui, Ludivine tente de rentrer chez elle à Melun. Nombreux trains supprimés là aussi en région Île-de-France, mais elle reste philosophe.
Si j'ai bien compris, c'était par rapport à un droit de retrait, en fait, suite à un accident qu'il y a eu en Champagne-Ardenne. Donc après, je comprends aussi que le conducteur était tout seul et pour gérer des blessés, quand lui-même aussi est blessé, c'est compliqué.
La grève sans préavis perturbe la circulation des TGV.
Les trains les plus impactés sont les régionaux TER, intercités notamment, d'ailleurs à quelques pas de Gare de Lyon. En Gare de Paris-Bercy, le panneau n'affiche presque que des trains supprimés, notamment vers Nevers. Anne se retrouve bloquée.
Je vais essayer de me rapprocher le plus possible de Nevers pour que quelqu'un vienne peut-être me chercher à Auxerre avec le seul qui circule s'il part bien parce que le conducteur, m'a-t-on dit, peut au dernier moment se dire qu'il démarre pas. Suspense et galère.
Une galère aussi pour Nicolas qui doit emmener 30 enfants dans la Creuse en colonie.
Après, je pense qu'il va y avoir des remboursements, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher à nous d'affréter un car à la dernière minute parce qu'on a été chercher un car en urgence.
Les billets annulés sont en effet remboursés. Les annonces en gare invitent les voyageurs à reporter leur déplacement.
Voilà, Rémi Brancato en direct à la gare de Lyon à Paris avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu ce matin au Centre National des Opérations Ferroviaires à Paris avec le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi. Pour Édouard Philippe, c'est une grève inédite qui se déroule en ce moment et il dénonce un détournement du droit de retrait exercé par les agents de la SNCF.
Nous sommes aujourd'hui au premier jour des vacances de la Toussaint. C'est 3 millions de Français qui doivent un jour comme celui-ci prendre le train. Or, ils en sont, pour un très grand nombre d'entre eux, largement empêchés, à raison d'un détournement du droit de retrait, d'un détournement d'un droit syndical que je respecte parfaitement, mais qui n'est pas mis en œuvre et qui s'est transformé en une grève sauvage. Cette grève sauvage, elle a un impact inacceptable pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Français. J'ai demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données, et notamment les suites judiciaires, car il n'est pas acceptable, je le redis, que le détournement de la loi mettent autant de Français dans des situations extrêmement dommageables et parfois extrêmement critiques.
Voilà, propos d'Edouard Philippe ce matin à Paris. La direction de la SNCF et les syndicats ont négocié hier pendant 5 heures. Échec. Au centre des discussions, la présence de contrôleurs dans tous les TER. De nouvelles négociations sont prévues dans le courant de la semaine prochaine. La SNCF appelle conducteurs et contrôleurs à reprendre le travail. Maxime Debs, bonjour.
Bonjour.
Pour la direction, ils sont en situation irrégulière.
Oui, au même titre qu'Edouard Philippe que l'on vient d'entendre pour le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, ce mouvement est une grève, grève qui ne respecte pas la loi. Des injonctions ont été envoyées aux agents qui ont décidé de cesser le travail. Nous étudions la voie judiciaire, confirme Guillaume Pepy, indigné de cette situation ce matin chez nos confrères de BFM TV.
C'est une grève. Ça n'est pas aujourd'hui un droit de retrait. Il n'y a aucun danger grave et imminent sur aucun train à la SNCF. Et aujourd'hui, jour de grand départ en vacances dans toute la France pour les vacances de la Toussaint, la SNCF est pas au rendez-vous. C'est pas admissible.
Pour les syndicats, en agissant de la sorte, en agitant la menace de sanctions, le président sortant de la SNCF qui vit ses derniers jours à la tête de l'entreprise publique ne peut qu'exciter encore un peu plus la base. Ils font du juridisme sans prendre le temps de répondre aux vraies questions, celles de la sécurité des trains. Hier soir à la réunion entre syndicats et direction dont vous parliez, Pierre, il y a surtout eu beaucoup de parlotte, affirme un participant à la table ronde. On n'a pas besoin de cosmétiques, de menaces, conclut un syndicaliste, simplement de mesures immédiates.
Maxime Debs. À Londres, le Parlement britannique est réuni depuis ce matin pour une séance exceptionnelle. Il doit décider s'il entérine l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles cette semaine, et cela à 12 jours seulement de la date officielle prévue de sortie de l'Union européenne. Un nouveau report serait inutile, coûteux et destructif, proclame le Premier ministre Boris Johnson. Antoine Gignoux est notre correspondant permanent à Londres. Il est avec nous en ligne. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Boris Johnson qui se bat en ce moment pour rassembler derrière lui le maximum de députés.
Il tente le tout pour le tout, Boris Johnson, promesse tous azimuts, parce que le Premier ministre n'a pas le choix, il n'a pas la majorité à la Chambre des communes, il lui faut les voix des travaillistes, et c'est à eux et aux Verts qu'il pense quand il s'engage à protéger les droits des travailleurs et l'environnement.
Personne ne pense sérieusement qu'on va abaisser les standards. À la place, on va les améliorer grâce à notre liberté retrouvée. Nous serons par exemple libérés de la politique agricole commune. Nous aurons un système plus simple pour récompenser les fermiers qui améliorent notre environnement. Et nous serons libérés de la politique européenne de la pêche et des quotas.
Boris Johnson qui promet aussi le retour de la stabilité économique et des procédures simplifiées pour l'Irlande du Nord. C'est la meilleure solution possible, dit-il, mais sur les bancs, les unionistes nord-irlandais secouent la tête. Ils voteront contre le texte, comme la majorité des travaillistes, harangués à leur tour par Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche.
Vous ne pouvez pas croire un seul mot de ce qu'il raconte. Si nous votons aujourd'hui en faveur de l'accord, ça ne résoudra rien. Je comprends très bien la frustration et la fatigue qu'on voit dans l'ensemble du pays et ici, au Parlement. Mais on ne peut tout simplement pas voter pour un accord qui est pire que celui que nous avons rejeté à 3 reprises. C'est le peuple qui devrait décider.
Et cette idée de nouveau référendum populaire qui permettrait de résoudre une fois pour toutes la question du Brexit, c'est aussi ce que réclament des centaines de milliers de manifestants. Ils sont en train de converger en ce moment dans le centre de Londres.
Alors il y a une question, Antoine Gignoux. Est-ce qu'il y aura vraiment aujourd'hui un vote sur cet accord qui organise le Brexit ?
En fait, au moment où je vous parle, personne ne peut le dire parce que les anti-Brexit ont déposé en urgence une motion qui, si elle est validée par les députés, va obliger le Parlement à examiner tous les points de l'accord un par un pour les transcrire dans la loi britannique avant d'organiser un vote final. La procédure pourrait prendre des semaines et pourrait aussi, ironiquement, obliger Boris Johnson à demander un nouveau report du Brexit.
Antoine Gignoux en direct à Londres. Les violences qui ont provoqué des scènes de chaos à Barcelone hier soir ont fait 182 blessés dans l'ensemble de la Catalogne. Uniquement à Barcelone, 152 personnes ont été blessées. En plein centre-ville, des militants indépendantistes radicaux ont affronté pendant plusieurs heures les forces de l'ordre en lançant des pierres ou des objets métalliques. Les policiers répondaient avec des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. De nombreux feux ont été allumés et des barricades élevées dans les rues. C'était le cinquième jour de la mobilisation contre la condamnation à de lourdes peines de prison de dirigeants indépendantistes pour leur rôle dans la tentative de sécession d'octobre 2017. Mais une large part de la population en Catalogne est aussi opposée à l'indépendance. Exemple, Alex Ramos, il est vice-président du mouvement social Société Civile Catalane. Il est au micro de notre envoyé spécial, Thibault Lefebvre. Il y en a assez du mouvement indépendantiste. On voit des choses préoccupantes dans la rue. Des actions très organisées, avec un niveau de violence qui inquiète les gens. Dimanche prochain, nous appelons à une grande manifestation pour la démocratie, pour le vivre ensemble, et nous demandons la fin du processus indépendantiste. Ça suffit, ça fait des années que ça n'apporte rien. Et cette manifestation va permettre à la population d'exprimer ça publiquement. En ce moment, c'est tendu, mais je considère qu'une réconciliation est possible et nous allons y arriver.
Voilà, et ce matin, l'autoroute AP7 est coupée dans le sens France-Espagne, près de la frontière, en raison d'une manifestation indépendantiste. En ligne avec nous, au téléphone, Benoît Pellistrandi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne. Vous avez publié Le labyrinthe catalan aux éditions Décle Brouwer. Monsieur Pellistrandi, est-ce qu'il y a un risque de guerre civile en Catalogne?
Le terme de guerre civile est sans doute trop fort, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une fracture sociale extraordinairement puissante au sein de la société catalane, et que la vraie question politique aujourd'hui, ce n'est pas la question de l'indépendance, c'est la question de la stabilité sociale en Catalogne. Et ce qui est très préoccupant, c'est que la radicalisation à laquelle nous assistons depuis quelques jours, elle est moins en réalité en réaction à la sentence du tribunal suprême, parce qu'elle a été très préparée en amont, et que ça fait partie d'une stratégie qui est la politique du pire, créer les conditions de l'irréparable. Il faut bien avoir en tête que les indépendantistes veulent créer de l'irréparable pour rendre l'indépendance inévitable. Or, les derniers éléments chiffrés dont on dispose montrent que si 44% des Catalans souhaitent l'indépendance, 48% ne la souhaitent pas. Donc, on est, je dirais, dans un match parfaitement équilibré. Et effectivement, le recours à la violence est peut-être la seule façon de déséquilibrer ce match, mais avec un effet de retour, parce qu'on peut imaginer aussi que des indépendantistes modérés s'inquiètent de cette radicalisation et de ces scènes d'émeutes urbaines.
Et vous dites que c'est la stabilité sociale qui est en jeu. Expliquez-nous, qu'est-ce qui est vraiment en jeu? C'est-à-dire que les indépendantistes veulent créer le chaos absolu?
Les radicaux, oui. Alors, prenons un exemple, justement, par rapport au maintien de l'ordre. Qui a la compétence du maintien de l'ordre en Catalogne? La police catalane, qui dépend du conseiller à l'intérieur, du gouvernement régional catalan. Or, on observe, effectivement, qu'elle est devenue, cette police catalane, la cible des manifestants, et qu'il y a un flottement à l'intérieur de la chaîne de commandement, puisque des politiques demandent à cette police d'être la plus bienveillante possible, et d'autres, au contraire, exigent qu'elle soit capable de maintenir l'ordre pour ne pas donner prétexte au gouvernement central d'intervenir à son tour.
Quelle issue voyez-vous dans ce conflit?
L'issue, elle est très compliquée, elle ne peut être que politique. Ceux qui veulent faire croire qu'il n'y aura que la violence pour s'en sortir sont des gens qui, effectivement, mettent de l'huile sur le feu. Elle est politique, ça veut dire, en fait, que les indépendantistes doivent reconnaître publiquement que le processus unilatéral a échoué, et donc il faut reprendre la négociation avec Madrid depuis le début. Et en réalité, ce que les indépendantistes ont créé, c'est un double problème. Un problème de relation entre la Catalogne et le reste de l'Espagne, et un problème de relation entre les Catalans eux-mêmes.
Merci Benoît Pellistrandi, spécialiste de l'Espagne, historien qui a publié aux éditions Décle Brouwer Le labyrinthe catalan. Que faire des djihadistes français retenus prisonniers par les Kurdes en Syrie et qui pourraient s'échapper en raison de l'offensive militaire turque? Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, s'est rendu au Kurdistan irakien cette semaine. Il souhaitait que ces djihadistes soient transférés en Irak pour y être jugés. Les Kurdes d'Irak ont dit non. Sur ce dossier, prise de position ce matin de David Depasse, coordonnateur du pôle antiterroriste au tribunal de Paris. Ne pas rapatrier les djihadistes français retenus en Syrie fait courir un risque de sécurité publique en France, dit-il. Selon ce juge d'instruction, je le cite, l'instabilité géopolitique de la région et la porosité de ce qu'il reste des camps kurdes laissent redouter deux choses. D'une part, des migrations incontrôlées des djihadistes vers l'Europe avec le risque d'attentats par des personnes très idéologisées. Et d'autre part, la reconstitution de groupes terroristes combattants particulièrement aguerris et déterminés dans la région. Les sports maintenant et le mondial de rugby au Japon avec les quarts de finale. L'Angleterre a écrasé l'Australie ce matin 40-16 et fonce donc en demi-finale. Vincent Pellegrini est en ligne avec nous au Japon. Bonjour Vincent. Vincent Pellegrini est-il avec nous en ligne pour évoquer ces quarts de finale? Vincent Pellegrini, donc victoire de l'Angleterre sur l'Australie. Et puis en ce moment, il y a une autre affiche de ces quarts de finale, c'est Nouvelle-Zélande-Irlande et on en est à la mi-temps. Vincent Pellegrini n'est pas avec nous, on essaiera peut-être de le joindre un peu plus tard. Le conseil de lecture, le conseil culturel du week-end, c'est Girl de la romancière irlandaise Edna O'Brien, un livre que nous recommande Ilana Moriousef. Le personnage principal est une adolescente nigériane, l'une des lycéennes kidnappées par Boko Haram en 2014. Mariée de force à un djihadiste, elle trouve le moyen de s'échapper, mais le retour chez les siens se révèle beaucoup plus difficile que prévu. C'est un récit vibrant, ode au refus de se soumettre. Ilana Moriousef a lu et aimé cet ouvrage.
Si l'on a lu les mémoires d'Edna O'Brien, on aura peut-être du mal à imaginer l'ami de Paul McCartney et Robert Mitchum prenant l'avion pour Lagos à 88 ans pour se documenter sur les lycéennes enlevées par Boko Haram. Mais Edna O'Brien, c'est aussi la romancière dont le premier livre fut brûlé en public dans son village catholique irlandais, rappelle son éditrice française Sabine Vespizer.
Quand Edna O'Brien se glisse dans la peau d'une jeune fille enlevée par Boko Haram, c'est de son expérience, de la violence qui lui a été faite quand elle avait 30 ans, certes pas dans son corps, mais en tout cas de la violence sociale qu'elle a subie en étant interdite de publication, exilée de son propre pays, en voyant ses livres brûlés sur la place de son village. Edna a toujours dénoncé cette violence faite aux femmes et elle a toujours tendu la main aux femmes qui étaient victimes de cette violence-là pendant toute sa vie.
Girl est donc la confession de Mariam, 14 ans, enlevée alors qu'elle était au lycée. Elle réussit à s'enfuir, mais elle a un enfant désormais et n'est plus la bienvenue parmi les siens.
Cette jeune fille se retrouve considérée comme une paria et comme une femme qui a souillé le sang de la lignée. Grâce à la force que lui a donnée l'enfant, elle s'est considérée comme une femme qui pouvait légitimement se séparer de sa propre famille et vivre son lien maternel. Et toute la beauté du livre réside dans cette espérance que donne Edna O'Brien à toutes les femmes bafouées.
De 14 à 90 ans, le même cri, le même combat, le même espoir.
Voilà, Girl de Edna O'Brien, traduit de l'anglais par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dosa, publié aux éditions Sabine Vespizer. Autre prescription culturelle, le rendez-vous annuel de la FIAC, la grande foire d'art contemporain au Grand Palais à Paris jusqu'à demain soir. 199 galeries d'art moderne, contemporain et design en provenance de 29 pays. Parmi les curiosités, l'Iran qui fait son entrée cette année à la FIAC et puis de nombreux artistes qui ont travaillé sur les thèmes de l'environnement, la pollution, des océans et le climat. Et sur franceinter.fr, ne manquez pas ce quiz des œuvres d'art. À vous de dire si elles sont vraiment visibles à la FIAC. C'est sur franceinter.fr. Autre conseil culturel, le nouvel album de Vincent Delerme, Panorama, sorti hier, un extrait, La Chamade.
La voiture brûlante, le capot, sur le garçon, une fille s'appuie, alors vouloir être à leur place. Alors sentir mon cœur.
Voilà, la chamade de Vincent Delerme. 5 concerts à venir à la Cigale la semaine prochaine à Paris. Tous complets. Voilà, c'est le 7e disque de Vincent Delerme. Et c'est un album France Inter. Dans quelques secondes, les couleurs du ciel.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
On écoute Jean-Michel Golinski de Météo France.
Peu de régions vont échapper à la pluie ou aux averses cet après-midi. Parmi elles, on note la Corse, une grande partie du Midi-Pyrénées et du Roussillon. Par contre, sur le reste du pays, le parapluie va servir. Au nord de la Loire, ce sera en raison des averses, plus répandues sur les départements côtiers. Du sud-ouest au quart nord-est, les pluies seront souvent durables. Notez qu'elles vont se renforcer ce soir par les Charentes et par l'Aquitaine. Mais c'est surtout du Languedoc à l'Auvergne et de l'est du Rhône au Jura que les précipitations d'orage seront les plus marquées, dans des températures de l'ordre de 28 degrés à Perpignan, 25 sur la Corse, 23 en Camargue et de 15 à 20 degrés cet après-midi de la moitié nord au quart sud-ouest. Demain, le soleil va se montrer sur les bords de la Manche, également dans le sud-ouest, mais ailleurs la pluie sera au rendez-vous. Des pluies souvent marquées et partiellement orageuses dans toute la moitié est du pays et toujours plus fortes sur les Cévennes.